RTL Info, le journal Vincent Costet, bonsoir.
Bonsoir, les coulisses de la Smeuse. Dévoilées au public, le torréfacteur Chaudefonnier célèbre ses 125 ans avec deux journées portes ouvertes. Pour l'occasion, les dirigeants ont fait venir un de leurs producteurs du Pérou. L'ambassade suisse en Iran a été évacuée en raison des attaques israéliennes sur Téhéran. La Confédération estime que la sécurité de ses collaborateurs n'est plus assurée dans la capitale iranienne. Pauline Brunner a la médaille d'argent européenne autour du cou. L'épéiste neuchâteloise et ses coéquipières de l'équipe de Suisse ont brillé à Gênes. Elle revient, la neuchâteloise, sur cet exploit dans ce journal. Encore une chaude journée au menu météo de demain. Il fera entre 26 et 30 degrés par endroit demain après-midi dans la région. C'est la fête à la Smeuse. Le torréfacteur Chaudefonnier célèbre ses 125 ans. Pour l'occasion, l'entreprise a vu les choses en grand. Deux journées de portes ouvertes. Les festivités ont débuté aujourd'hui à 14h. Et avant même le coup d'envoi, le public se pressait déjà en nombre. Les visiteurs n'étaient pas que Chaudefonnier cet après-midi. On a croisé des Balois qui s'exprimaient en français, des Vaudois, des Fribourgeois. On a aussi entendu parler le Suisse allemand et même l'Espagnol, puisque les dirigeants de la Smeuse ont fait venir du Pérou un de leurs producteurs, Gino Mar, de la coopérative Yanesha. Écoutez.
Un viaje largo porque es de Villarrica a la capital, c'est 8 heures en voiture et après 16 heures jusqu'ici. C'est une région au centre du Pérou, habitée par des Yanesha, c'est les locaux, les indigènes qui cultivent le café dans des altitudes entre les 800 et les 1950 mètres. C'est environ 240 hectares de culture de café. Les propriétaires de ces petites parcelles, ça va entre la demi-hectare et 2,5 hectares.
En total, en hectares, nous avons 238 hectares totales de café de los socios.
Ça fait combien de temps que vous travaillez avec la Smeuse ?
Con la Smeuse, venimos trabajando desde el 2000...
Depuis 2023. Ils vont dans la Smeuse, de l'Arabica principalement, et un petit peu de Robusta.
Un poco de especialidad que es el Robusta.
Vous présentez quoi ici ? Vous êtes pas venu les mains vides ?
Las muestras de café cereza.
Ils veulent laisser connaître les cerises du café, que pas beaucoup de gens connaissent. Tout le monde connaît les grains, mais pas la cerise originale. Je vais amener quelques échantillons de cerises de café.
Non, initialement, la que cosechamos nosotros, non ?
Des propos recueillis par Claire Viget et traduits, pas par Claire, mais par un collaborateur de la Smeuse. Les portes ouvertes du torréfacteur Chaudefonnier se poursuivent demain entre 9h et 16h. On descend un peu avec la baignade qui est déconseillée sur le secteur est des Jeunes Rives à Neuchâtel entre le parking de l'ancien Panespo et la station d'épuration. À conséquence des travaux en cours aux Jeunes Rives, une analyse de l'eau y est menée chaque semaine. Ces pointages montrent que ponctuellement la qualité de l'eau peut être dégradée dans la zone en question, raison pour laquelle cet avis est affiché pendant les travaux depuis le mois de mai. Neuchâtel qui célèbre la fête de la musique. Pendant 3 jours, depuis hier et jusqu'à demain soir, la manifestation se tient au centre-ville. Une fête qui a connu plusieurs changements cette année. Il n'y a plus la petite scène à la rue de l'Hôpital, mais 3 autres ont été érigées. L'une est consacrée à la musique underground, une autre à la poésie et puis une autre encore aux découvertes musicales. Pop, rap, rock, électro ou encore jazz. Et il y en a pour tous les goûts sur 80 concerts. Le changement permet au nouveau comité d'insuffler une nouvelle dynamique à la manifestation et aussi de s'éviter des problèmes financiers. Ivan San Miguel, président de la fête de la musique de la Neuchâtel.
Alors on croise les doigts et on compte sur la générosité des gens, sur le fait qu'ils consomment chez nous plutôt que dans une terrasse ou les choses comme ça. Et puis grâce à nos partenaires qui nous soutiennent, qui même si l'argent, bien sûr, c'est le nerf de la guerre, il y a énormément de gens autour, que ce soit les services de la ville et puis toutes les petites mains de la ville. Tout le monde nous a vraiment beaucoup aidés, nous soutiennent. Et vraiment, ça fait plaisir et chaud au cœur. Et ça nous motive énormément à faire quelque chose de bien, justement, pour toute la ville.
Et il n'y a pas eu énormément de promotion, de communication autour de ces 3 jours de festivités. C'est plus un besoin ?
Alors non, bien sûr, la communication, c'était un besoin. Ben voilà, on a des problématiques d'argent. Et bien sûr, ben, le papier, ça coûte cher. Du coup, ben voilà, on doit faire des choix en termes de sous. Et on est quand même plus pour payer de l'humain que du papier d'abord. Du coup, on préfère utiliser peut-être les nouvelles technologies pour communiquer et essayer de se débrouiller au mieux pour essayer de passer le max d'infos aux gens. Et on espère à l'avenir pouvoir, justement en termes de communication, pouvoir s'améliorer, pouvoir faire vraiment profiter encore un maximum de gens de la communication.
Des propos recueillis par Lydiane Guena. Retrouvez le programme des concerts de la fête de la musique à Neuchâtel sur rtn.ch. Des manifestations sont aussi organisées dans d'autres communes du canton, comme à La Chaux-de-Fonds, au podcast Café ce soir et demain, à Festiforge demain, ou encore au Coyote Bar avec un événement techno pendant 12 heures, demain dès 15 heures. Des étoiles aux atomes, l'observatoire cantonal de Neuchâtel, c'est le titre d'un cycle d'expositions qui auront lieu en 2026 dans plusieurs musées du canton. Sur cette institution phare, inaugurée en 1858, le chef de projet est le chaudefonnier Julien Gressot. Le budget de cette manifestation d'envergure est de 3 millions de francs. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Fabien Fival, président d'Automates et Merveilles, l'association organisatrice. Le site de Landy va faire peau neuve à Corneau. Le magasin de détail, la halle de vente destinée aux professionnels ainsi que le silo vont être rasés. Ils seront remplacés par deux bâtiments de vente plus spacieux, réservés l'un au commerce de détail et l'autre au milieu agricole. Le silo ne sera pas reconstruit. Le coût du projet est estimé à plus de 10 millions de francs. Les travaux de démolition commencent début juillet et le chantier s'étalera sur une année au moins. Directeur de Landy Région Neuchâtel, Michael Lebas se réjouit de voir les nouveaux bâtiments sortir de terre, sachant que les constructions actuelles sont très vétustes. Michael Lebas.
Il suffit d'aller voir, si jamais vous ne connaissez pas Corneau, vous passez le pont et vous allez directement voir notre Landy, qui est vraiment plutôt d'actualité. Et puis, il y a un silo qu'on n'utilise plus, donc maintenant, il s'agit de refaire quelque chose de plus propre, et que ce soit pour les habitants, et pour nous, et pour tout le monde. Puis au niveau sécurité, encore une fois, c'est très important à mes yeux.
Sécurité, parce qu'il y a la gare à proximité, qu'il y a une route qui traverse en fait sous l'un des bâtiments.
Voilà, exactement. Nous, on a deux sites et on a le magasin qui se trouverait plutôt à gauche et puis l'agro et le silo plutôt à droite. Et la route pour la gare est entre les deux, donc c'est pas du tout sécurité et pour les clients CFF et pour les nôtres, puisque le parking, on doit traverser cette route-là, et pour télécharger les camions, etc. Donc là, c'est un confort pour tout le monde et une nécessité qu'on change cet état des lieux.
Des propos recueillis par Marcel Neunschwander. La SA Landy Région Neuchâtel comprend 4 sites, Motier, Beuvais, Crédulocle et Corneau. Landy Val-de-Rue forme en revanche une coopérative indépendante. L'armée peut enfin intervenir à Blatten. Les conditions de sécurité ont permis aujourd'hui aux militaires en attente depuis juin, début juin même dans le Lötschental, de commencer les travaux de déblaiement des débris accumulés dans le lac qui s'est formé sur le village. Une vingtaine d'hommes de la formation d'intervention d'aide en cas de catastrophe, appuyés par les forces aériennes, ont commencé leurs travaux. C'est ce qu'indique le département fédéral de la Défense. Et puis le risque d'éboulement s'est aggravé à Briens, dans le canton des Grisons, après les fortes précipitations de fin mai. Aujourd'hui, les autorités ont déclenché la phase rouge pour la troisième fois en 2 ans. L'accès au village, évacué depuis novembre dernier, est à nouveau totalement interdit. 67 cas de violences sexuelles depuis 1950. C'est le chiffre accablant qui ressort du rapport d'enquête mené par le procureur neuchâtelois Pierre Aubert sur l'abbaye de Saint-Maurice en Valais. Un groupe de chercheuses de l'université de Fribourg a fouillé différentes archives de l'abbaye, dont celle de l'internat et celle des chanoines. 57 personnes ont témoigné. Anne-Françoise Prat est l'une des chercheuses de l'université de Fribourg. Pour elle, toutes les conditions étaient malheureusement réunies pour expliquer ces déviances.
Nous retrouvons dans notre enquête des éléments qui sont déjà apparus dans d'autres travaux, à savoir une dimension systémique, des conditions de possibilité de ces violences sexuelles, qui commencent par le prestige du prêtre, la position de l'Église, qui garantit aux auteurs une certaine impunité. Ensuite, un deuxième élément, c'est la position ambiguë de l'Église catholique et ici de l'abbaye, notamment à l'égard des questions de sexualité, qui font qu'il y a des tabous récurrents et tout ça. Ensuite, on est avec l'abbaye de Saint-Maurice dans un élément spécifique qui est d'une part l'internat, hein, où on sait que dans des structures fermées, il y a beaucoup plus de risques de violences sexuelles qui peuvent être commises. Et en même temps, on est aussi dans un canton extrêmement conservateur catholique, où la parole a de la peine à se libérer.
L'abbaye de Saint-Maurice a annoncé un plan d'action pour éviter que ces situations se reproduisent. Des mesures allant d'un meilleur dialogue avec la société civile à l'accueil des victimes seront mises en place. L'ambassade suisse en Iran a été évacuée en raison des attaques israéliennes sur Téhéran. La Confédération estime que la sécurité de ses collaborateurs n'est plus assurée dans la capitale iranienne. L'ambassadrice de Suisse en Iran et le reste du corps diplomatique ont été évacués la nuit dernière en Azerbaïdjan. Ils rejoindront la Suisse ces prochains jours. La fermeture de l'ambassade de Suisse en Iran est temporaire. La Confédération continue à remplir ses fonctions en tant que puissance protectrice des intérêts américains en Iran. Dans le cadre de ses bons offices, le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis.
La Suisse continuera, même sans être physiquement présent à Téhéran, d'assumer son rôle d'intermédiaire pour la transmission de messages entre l'Iran et les États-Unis. Ce mandat reste valable, même en dehors de l'Iran, et les deux pays nous ont confirmé que pour eux c'est aussi OK. Donc, pour être clair, ceci se passe maintenant de manière téléphonique.
Le Conseil fédéral appelle toutes les parties à une reprise du dialogue pour éviter une escalade régionale avec des conséquences dévastatrices pour la population civile. Il condamne également tout recours à la force contraire au droit international et humanitaire. Le Conseil fédéral qui a décidé aujourd'hui aussi de lever toutes les sanctions économiques visant la Syrie. La Suisse s'aligne ainsi sur la décision de l'Union européenne. Elle avait déjà assoupli son régime de sanctions le 7 mars. Le Conseil fédéral qui souhaite aussi renforcer la Genève internationale. Il veut lui allouer 269 millions de francs pour la période 2026-2029. Il s'agit à la fois de consolider la tradition humanitaire de la ville et de la positionner comme un hub d'innovation pour la recherche de solutions face aux défis de la gouvernance des nouvelles technologies. Le Parlement doit encore donner son aval. Enfin, l'hôpital Rambam d'Haïfa a annoncé aujourd'hui à l'association France Presse avoir pris en charge 19 blessés, dont un dans un état grave après des tirs de missiles iraniens sur cette ville du nord d'Israël. Une semaine après le début de la guerre entre les deux pays.
Et à l'écoute d'RTN, il est 18h12.
RTN Sport.
Pauline Brunner peut rentrer au pays avec le sourire, un large sourire et de la fierté. La chaudefonnière a décroché l'argent lors du concours à l'épée par équipe des championnats d'Europe de Gênes en Italie hier. La formation helvétique s'est inclinée en finale 45-34 face à l'Ukraine après un brillant parcours. Pour retrouver un tel exploit de l'équipe de Suisse féminine d'escrime, il faut remonter à 2009. L'athlète de la métropole horlogère nous explique ce qui s'est passé dans sa tête au moment où la médaille a été assurée. Pauline Brunner.
Beaucoup de soulagement parce que justement, vu qu'on avait fait quatrième deux fois aux Europes et au monde, on n'avait vraiment pas envie de faire cette troisième place. De savoir qu'on pouvait aller se battre pour un titre, c'est quelque chose qu'avec l'équipe, on n'avait jamais fait en fait, vu qu'on était trop heureuses.
C'est quoi vos prochaines échéances maintenant? Les vacances, un peu se reposer?
Non. On a fin du mois de juillet ou à peu près aux alentours du 20, je dirais. Les championnats du monde en Géorgie, à Tbilissi.
Et là, du coup, ça donne faim encore plus pour aller chercher une médaille à ces championnats du monde.
Bah, disons que ça nous met un peu plus de confiance en nous, qu'on sait que de ce qu'on est capable. Après, les mondes, il y a encore beaucoup plus d'autres équipes qui sont fortes aussi. Mais en tout cas, on sait de quoi on est capable et on va essayer d'aller le plus loin possible.
Des propos recueillis par Yannick Catin. Neuchâtel Xamax, c'est à quelle sauce il va être mangé? Les Xamaxiens débuteront le championnat de Challenge League de football face au FC Stade Nyonnais à la Maladière le 25 juillet. La première partie du calendrier a été publiée aujourd'hui par la Swiss Football League. Plus d'informations sont à retrouver sur rtn.ch. Et puis, la sixième étape du Tour de Suisse de cyclisme est revenue au Belge Jordi Meus, vainqueur au sprint cet après-midi à Neuhausen. Présent dans l'échappée, les Suisses Mauro Schmidt et Stefan Küng ont été rattrapés à 1 km de l'arrivée, rageant. L'étape a été marquée par l'abandon d'un autre Suisse, Jan Christen. L'Argovien de 20 ans souffrait depuis plusieurs jours d'une chute survenue lors de la première étape. Excellente soirée, je vous retrouve à 18h30 pour les prochaines informations.